pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce sont des liens de fer, des liens indissolubles, un serment devant Dieu. Alors comment les rompre, comment s'en défaire, revenir sur sa promesse solennelle? Chez les catholiques, c'est bien simple, le divorce n'existe pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est prouver que le mariage n'a pas vraiment eu lieu et le rendre nul. Pour cela, il faut convaincre un tribunal ecclésiastique que le mariage ne remplissait pas au départ les conditions nécessaires, que l'un ou les deux époux étaient immatures au moment du consentement, malades ou stériles, et que ce fait était caché au conjoint. On peut aussi prouver la non-intention initiale d'assumer les obligations du mariage, comme fonder une famille ou éduquer ses enfants dans la foi chrétienne. Si le mariage ne rentre pas dans une de ces cases, alors les époux ne peuvent pas divorcer et restent donc mariés jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Chez les juifs, le divorce est possible, mais il est soumis au bon vouloir du mariage qui peut accorder ou pas le divorce religieux, le guet, à sa femme lors d'une cérémonie devant un tribunal rabbinique. C'est le sujet du film magnifique de Ronit et Shlomi Elkabetz, Le procès de Viviane Amsalem. Sans ce précieux sésame, une femme ne peut se remarier religieusement et ses enfants sont frappés du statut de bâtard. Lorsque les maris sont récalcitrants, certaines femmes sont ainsi contraintes d'attendre leur guet pendant 1, 5 et parfois 10 ans. En Israël toutefois, les autorités ont pris les choses en main et punissent désormais les maris qui refusent d'accorder le divorce. Chez les musulmans enfin, le divorce est reconnu mais doit être un dernier recours. Il peut être réclamé par le mari ou par la femme, moyennant compensation. Mais ce n'est pas si simple, car si c'est la femme qui le demande, elle doit avoir des raisons sérieuses, comme des violences conjugales, un défaut d'entretien, abandon du domicile, délaissement, etc. Le mari, lui, n'a que peu à se justifier. Dans le cas où c'est lui qui formule la demande, le divorce peut s'apparenter à une forme de répudiation. Dans certains pays, il lui suffit de prononcer 3 fois les mots « tu es divorcé » et hop, la répudiation est faite. Le mieux, c'est sans doute donc d'éviter de se marier. Mais en attendant, voici tout de même 3 histoires de divorce religieux jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture par Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Yehudit, j'ai 36 ans, je suis juive.
Donc comment vous avez rencontré votre mari?
Alors au début, c'était une rencontre avec des amis. Et avec le temps, on a fait connaissance. Alors on s'est mariés religieusement en Israël, en 2002. Et on ne s'est pas mariés civilement en France, parce qu'il n'a jamais voulu. Mais ça ne m'a pas dérangée. Pour moi, ce qui comptait, c'était le mariage religieux. Le vécu avec lui, c'était il y avait des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pouvait être très gentil. Et à un autre moment, montrer un autre visage. Et c'était très difficile. Et il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai tenté de me séparer. Mais il arrivait, par la parole, à me faire revenir, à me remettre en confiance. Avec moi, tu seras heureuse, je veux ton bien. Et bien sûr, je repartais avec lui. Et donc, on était ensemble depuis 12 ans. Et quand ma mère est décédée, et que j'ai vu que même au moment où j'ai perdu un être proche, il n'était pas là même pour me soutenir. Au contraire, il m'a encore plus fait du mal. Et là, j'ai dit stop. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai appelé mon père pour lui dire, papa, je veux divorcer. Soit tu m'aides, soit je me débrouille seule. Mais j'ai décidé de divorcer et je ne changerai pas d'avis. J'ai fait ma demande juste après auprès du consistoire de Paris pour faire ma demande de divorce religieux.
Ça s'appelle le guet ?
Oui, le guet. Alors, dans la religion juive, pour divorcer, il faut que le mari accorde le divorce à la femme. Et donc, le premier rendez-vous au consistoire, il se passe qu'on m'a fait comprendre. Si vous voulez avoir votre divorce religieux, il faut d'abord régler vos contentieux financiers. On avait acheté un pavillon en commun et aussi des biens à l'étranger. Donc on a opté pour aller voir une médiation. C'était très positif. J'avais l'impression de trouver des solutions. On était arrivés à un accord qu'on devait signer tous les deux. Et quand on arrivait à la fin de cet accord, il n'est plus venu. Donc je ne peux pas signer un accord sans lui. Et un mois après, on avait rendez-vous de nouveau au consistoire. Et bien sûr, il avait rajouté des nouvelles conditions. C'était inacceptable. Et bien sûr, j'ai refusé. Là, il a commencé à me regarder avec un regard... il me narguait, entre guillemets. Il me narguait, souriant, limite content de voir que je souffre. Et donc là, j'ai pas supporté. J'étais prête à tout. Et donc, je suis sortie du bureau, en pleurs, et j'ai crié très fort. « Je veux ma liberté, s'il te plaît. Tu m'as fait déjà beaucoup souffrir. Stop, rends-moi ma liberté. » J'ai crié très très fort, au point où les gens des autres bureaux sont sortis, les gens de la salle d'attente du service des divorces sont sortis, des personnes d'autres étages sont venues aussi, les gens de la sécurité. Ils se demandaient « qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, une personne est venue lui parler, une femme. Une femme est venue et a dit à mon ex-mari « ça y est, rends-lui sa liberté, tu gagnes rien de faire ça, rends-lui ». Il lui disait « non, je veux pas, tant qu'elle a pas signé, je veux pas, je veux pas ». Il n'y a pas eu un seul rabbin qui est venu pour lui dire « stop ». Et à ce moment-là, j'ai compris que je devais rien attendre d'eux, que j'étais pas comprise, qu'ils ne voyaient pas la douleur des femmes qui souffrent d'être prisonnières d'un homme. Donc là, j'ai décidé que j'allais me battre. Pas me battre que contre mon ex-mari, mais contre même les institutions s'il le fallait, parce que je voulais ma liberté et qu'il était hors de question que je reste prisonnière. J'avais une amie qui m'a dit « Tu sais quoi, fais une pétition pour voir... est-ce que les gens de la communauté sont d'accord avec toi ou est-ce qu'ils trouvent ça pas normal ?» Donc, un soir, j'ai décidé de passer le cap et d'ouvrir ma page Facebook en marquant « Soutenez Yehudit » pour obtenir mon get. J'ai eu tout de suite à peu près 2000 signatures et les gens me soutenaient. Le consistoire était au courant de cette pétition. J'ai un rabbin du consistoire qui a pris contact avec moi pour rouvrir mon dossier. Et donc là, j'ai demandé à avoir un din Torah, c'est-à-dire un jugement selon la Torah. On a été reçus, il y a trois rabbins qui sont là. Et donc là, les rabbins lui ont dit, bon, pourquoi tu veux pas lui donner sa liberté? Il lui dit, bon ben, si elle vend tel truc, ben je lui donne sa liberté. Je lui ai dit, tu es sûr? Oui, tu le vends et là, je te donne ta liberté. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit. Petit 1, ils donnent le get. Petit 2, elle met en vente tel bien. Donc ils ont dit, on se revoit dans une semaine. Une semaine après, je suis venue pour la remise du get. J'ai attendu. Il n'était pas là. J'ai demandé au rabbin qu'il l'appelle. J'ai dit, peut-être il est en retard, peut-être il a un empêchement. Et il a commencé à dire « Non, j'ai annulé parce que t'as pas fait ce que j'ai demandé. » Grosse déception. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que j'étais sûre ce jour-là que j'allais avoir mon guette. Vu qu'il n'y avait plus de solution, j'ai pris contact avec Cathy Bissor, qui est avocate rabbinique en Israël. Et là, elle a ouvert un dossier au tribunal rabbinique en Israël.
Parce que c'est interdit de bloquer le guette en Israël, c'est ça?
Oui, c'est interdit par la loi. Et donc là, les rabbins, ils l'ont convoqué depuis l'étranger. Lui, il m'envoyait des messages, « N'y va pas, ça sert à rien, tu perds ton temps. » Il faisait tout pour me décourager. Je m'y suis rendue. Bien sûr, il n'était pas là. Il avait pris un avocat pour se défendre. Donc il y a eu une négociation pendant un bon moment, plusieurs mois, très dur. Mais à un moment donné, mon avocate a réussi à me convaincre qu'il fallait que je fasse certaines concessions, chose que j'ai fait. qui sont restées confidentielles, qui le resteront, parce que je voulais vraiment ma liberté. Donc là, j'ai accepté, et on a fait les démarches pour concrétiser cet accord. C'était pas facile, parce qu'il y avait des papiers dans certaines langues qu'il fallait faire traduire, il fallait faire des papiers au consulat d'Israël en France, et il y a eu beaucoup de barrières, mais j'étais déterminée. Alors, le jour du guet, c'était le 17 juillet 2017, et c'était le matin, donc il était présent, j'étais là, on essayait de pas trop se parler. Ce jour-là, il était même encore en train de négocier d'autres choses qu'il avait oublié de négocier. Ça m'a faisait rire un peu, parce que j'ai dit jusqu'au bout, jusqu'au bout, il a essayé de monnayer, voilà, de monnayer. Donc on rentre dans une salle, on nous donne des textes à lire. Et moi, toute la cérémonie, j'écoutais, je me laissais faire, je me laissais guider. Je voulais pas faire le faux pas qui aurait fait que j'aurais pas pu avoir mon guet. Donc je laissais faire les choses, j'étais très calme. J'étais ni triste, ni heureuse. J'essayais de rien faire ressortir de mon visage. J'avais les yeux baissés par terre. Je ne le regardais pas parce que je ne voulais pas être déstabilisée par son regard. Je ne voulais pas qu'il voie dans mon regard, ne serait-ce une émotion que j'aurais pu laisser sortir de mon visage. Je voulais qu'il ne voie rien. Donc j'étais figée. Il y a un moment donné où il y a le parchemin, on doit le mettre en dessous du bras, on doit aller marcher à une porte et revenir. Et il y a la phrase où le... Marie dit, c'est important parce que c'est lui qui doit dire, tu seras permise à tout homme. Et cette phrase-là, s'il ne la dit pas, je ne suis pas divorcée. Et donc quand on arrive à cette dernière phrase, je me dis, est-ce qu'il va arriver à le dire? À ce moment-là, je priais, je ne vais pas le cacher, je priais très fort pour qu'il le dise. Et il l'a dit, il a réussi. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon avocate pour qu'elle me confirme que j'étais bien divorcée. Parce que j'avais pas confiance. Et elle m'a confirmé. Elle m'a dit, si t'as fait ça, ça et ça, c'est que t'es bien divorcée. Ils peuvent pas revenir là-dessus. Tu es bien divorcée. J'étais heureuse.
Je m'appelle Marie-Cécile, je suis catholique, pratiquante. J'ai fait toutes mes études dans des institutions catholiques. Mes parents étaient catholiques, fervents pratiquants. Et donc en 81, j'étais cheftaine chez les guides de France. Et dans la maîtrise des scouts et guides de France, eh bien, j'ai rencontré Pascal. Alors j'avais 21 ans et Pascal avait 20 ans. Donc voilà, on s'est mariés en avril 84 et très vite est venu un premier garçon et nous avons eu en tout 4 garçons et que nous avons éduqués dans la foi catholique. Donc ça se passait plutôt bien. Et puis ensuite en 2008 nous avons déménagé et moi je me suis éloignée de mon travail. Donc du coup, je me retrouvais avec une heure de trajet quand cela se passait bien, puisque nous étions en région parisienne. Et puis, ma maman était très malade et le dimanche après-midi, je partais pour m'occuper de mes parents à 150 km de là. Et je revenais que le mardi soir, finalement, au domicile. Et dans le même temps, je m'étais inscrite en licence, ce qui faisait que je partais à Lille une semaine par mois. Voilà. Et je pense que là, il y a eu les ingrédients pour que le couple, finalement, se délite un peu, Mais moi, j'ai pas vu venir les choses, en fait. J'étais dans mon activité, peut-être une hyperactivité aussi. Le week-end, j'étais fatiguée. Le soir, je rentrais, j'étais fatiguée. Donc, très peu disponible. Du coup, j'invitais très peu et on sortait très peu. Et c'est vrai que mon mari m'avait fait cette remarque-là, que ça lui manquait. Et puis, un jour de septembre 2010, c'était l'anniversaire de notre filleule. Et il était très, très énervé ce jour-là, un peu agressif. Et le soir, il est allé se coucher, un peu comme d'habitude le premier, parce qu'il aime lire dans son lit. Et quand je l'ai rejoint, je me suis couchée et j'ai attendu qu'il ait fini de lire. Puis quand il a fermé son bouquin, il ne fermait pas la lumière, donc je lui ai fait la réflexion, mais est-ce que tu peux fermer la lumière, il serait temps de dormir? Et il m'a répondu non, j'ai à te parler. Et c'est là qu'il m'a dit en trois phrases, je pars, j'ai trouvé un appartement et j'ai une relation depuis 18 mois. J'ai été tellement saisie que je n'ai pas pu bouger. Et que je suis restée là, hébétée, à essayer de dormir, mais je n'ai pas dormi, bien sûr. Et puis le lendemain matin, il est parti comme d'habitude, comme si de rien n'était, au travail, en me disant simplement, tu sais très bien pourquoi je pars, j'ai pas d'explication à te donner. Voilà un petit peu très vite ce qui s'est passé, et puis ensuite, pour ma part, j'ai profité de mes 6 semaines d'arrêt maladie pour trouver un logement. Et quitter le logement conjugal. Et en fait, dans les fêtes, c'est moi qui suis partie la première. Gardant peut-être un espoir dans un coin de ma tête que les choses. Enfin, j'aimais toujours mon mari. Donc, le divorce, finalement, il a été conclu en 2016.
Quand le divorce civil a été prononcé, il vous restait une étape?
Le divorce religieux, de toute façon, je savais que le mariage religieux est indissoluble. En 2012, j'avais eu le besoin d'aller faire une session à Paray-le-Monial. Donc, c'est une session qui réunit des personnes qui veulent se faire un point sur leur vie. C'est 5 jours pendant lesquels il y a des temps de prière, il y a des temps de partage. Et donc moi j'étais allée sur les temps de partage, j'avais eu la chance de pouvoir discuter avec les animateurs et notamment aussi avec un évêque qui m'avait dit écoutez, il n'y a pas de solution, la dissolution du mariage elle peut se faire, mais il faut que vous en fassiez la demande et c'est un procès en nullité, c'est-à-dire vous avez demandé l'annulation de votre mariage religieux. Ça m'a beaucoup choquée que l'évêque me dise « La seule solution pour vous, c'est de demander la nullité de votre mariage. » C'est lourd, ce mot-là, « rendre nul votre mariage », comme si ce qu'on a vécu pendant 25 ans n'a pas de sens. Alors après, la deuxième solution qu'on m'a présentée, et c'est là où il y a une grande hypocrisie, si par malheur il arrivait quelque chose à votre ex-mari et que vous étiez veuve, vous pourriez vous remarier. Il n'y a pas de divorce religieux chez les catholiques. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel, avec lequel je me suis mariée en septembre cette année. Mais on s'est mariés civilement. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même un peu compliqué de vivre avec dans sa tête cette certitude que on est toujours relié religieusement à son ex-mari et qu'on est marié avec son nouveau mari. Je suis toujours mariée religieusement à Pascal jusqu'à ma mort et la sienne.
Je suis Serena Tchafik, j'ai grandi à Paris, je suis franco-égyptienne et je suis de culture musulmane. C'était en 1985, lors de vacances scolaires, j'ai rencontré un homme en Égypte avec qui je me suis mariée. Et donc, je m'installe pendant 7 ans en Égypte et ça se passe mal. Et il y a d'abord des violences psychologiques. Et j'accouche de ma fille. Au 4e jour, je suis à la maison et je reçois une gifle qui me met par terre. Moi, j'avais juré depuis petite qu'aucun homme ne lèvera la main sur moi. Et donc là, ce jour-là, j'ai dit c'est la première et la dernière fois. Voilà. Et j'ai demandé la répudiation parce que le divorce n'existe pas en Égypte. Et il a refusé. Seul l'homme a l'autorité de pouvoir répudier la femme, donc de pouvoir la libérer, en fait. Il a refusé pendant une année en me disant « En bien ou en mal, je suis dans ta vie tout le long de ta vie. » Donc c'était le premier choc en Égypte. D'abord, je viens d'une famille éclairée de militants de gauche. Lui-même, il était de gauche et je croyais que le code de famille s'appliquait sur les autres, pas sur moi. Que notre condition intellectuelle, du moins, m'épargnait ce genre de discrimination et violence. Parce qu'être enchaîné à quelqu'un contre son gré, c'est une grande violence. Pendant un an, j'ai retrouvé un travail puisqu'il ne m'interdisait pas, mais il m'empêchait de travailler. Par exemple, je mettais la petite à la crèche, je terminais à 18h, lui il terminait à 15h, il n'allait pas la prendre à la crèche. Enfin, tout était fait pour que je reste à la maison. Donc j'ai retrouvé un travail parce que c'est l'indépendance qui est importante, financière. Et j'ai commencé à reconstruire ma vie, mais avec toujours ce boulet, c'est une chaîne qui me reliait à lui.
Donc comment vous l'avez obtenue, cette répudiation?
Alors, je l'ai obtenue par stratagème, parce qu'on est obligé, quand on n'a pas de droit, d'avoir des stratégies de contournement. Donc moi, je suis en Égypte, j'ai vécu avant à Paris, et donc pour une partie des gens, j'étais considérée comme une dévergondée, une femme trop libre. On m'aimait bien quand je venais juste d'arriver, parce que la parisienne, c'était exotique, mais une fois mariée, j'avais les codes égyptiens à respecter. Et donc, j'ai joué avec ça. Je lui ai dit, voilà, tu sais bien, je suis une Parisienne, je suis une dévergondée, j'ai peur de rien, j'ai déjà la mauvaise réputation, je vais sortir avec tous les hommes que je veux. Et quand je vais rencontrer tes amis ou nos amis communs, je vais présenter mes amants et me présenter en tant que ton épouse. Et donc là, il y a la notion quand même de l'honneur de la famille qui était mise à mal. Et puis, il ne savait pas trop si je bluffais ou pas. Donc, la question de l'honneur l'a emporté. J'ai obtenu ma répudiation, mais je l'ai payée très cher, de 90 jusqu'à 2008. Alors, la répudiation, il y a 3 répudiations possibles. Celle que moi j'ai eue, c'est, je lui dis d'accord, on va se séparer, tu vas me répudier, mais je le dégage de toutes ses responsabilités. Ça veut dire que j'abandonne mes biens matrimoniaux, mais pas la garde, ni les droits de mon enfant. Ça, dans la loi, c'est pas possible. Donc, je n'ai rien eu, je suis partie. Voilà. Après, j'ai rencontré mon futur mari français. Je travaillais au Centre culturel français du Caire. Je donnais des cours de FLE, français langue étrangère. Et je commençais à vivre très mal parce que j'ai reçu dans la rue, alors que j'achetais des légumes, un coup de cutter sur le pantalon puisque je n'étais pas voilée. Mon fils revenait de l'école en me disant « Maman, pourquoi tu portes des manches courtes, il faut cacher les bras ?» Il descendait un peu la jupe de sa sœur, qui n'avait que 2 ans, parce que c'était trop court. Enfin, ce genre de choses. Et je me suis dit « Je ne peux pas élever mes enfants dans un environnement comme ça. » Moi-même, je commençais à me sentir très mal, parce que toutes les injonctions que subissaient les Égyptiennes, je les avais. Et je n'avais plus de cohérence dans ma vie. Je commençais à perdre le sens. Et pour retrouver le sens, j'ai décidé de partir. Donc j'ai fait un faux passeport puisque il avait refusé de faire le passeport pour ma fille et les femmes n'ont aucune autorité sur leurs enfants. Il l'a su. Et donc je suis arrivée 24 heures après à Paris sans ma fille, chez ma mère. Je faisais 39 kilos pour 1m64 tellement ça m'avait anéanti, ça détruit. J'allais tous les ans en Égypte en été pour la voir une demi-heure chaque année jusqu'à ses 18 ans. Et elle est, le jour de son anniversaire à 18 ans, elle est arrivée à Paris. Aujourd'hui, elle a 27 ans et elle vit avec moi aujourd'hui. Nous sommes retournés ensemble, place Tahrir, puisqu'on a mené la révolution ensemble. Qu'un mari, un ex-mari, veuille se venger, ça peut arriver. Que la loi lui donne les instruments de la vengeance, là, on n'est plus du tout dans un état de droit. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement dictatorial et fascisante pour les femmes. C'est extrêmement violent et là, c'est une violence étatique. Je dois obéir, sinon je suis privée de mes enfants. Ça fait des femmes fantômes qui ne vivent plus, qui survivent.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Divorcé, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marie-Cécile, à Yehoudit et à Sérénade, ainsi qu'à Bénédicte Draillard, à Cathy Bissor, à Yaché et Yaël Meloul, à Kaina Saadi et à Leïla Kerchouche. Sandrine Chaperon s'est attachée de production des Pieds sur Terre et Marguerite Delassa m'a aidée à préparer cette petite présentation. C'était notre stagiaire.